VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. L'Afrique du Sud, les plus hauts responsables de l'ANC, le parti au pouvoir, ont annulé tous leurs engagements publics ce vendredi en pleine tractation autour du départ anticipé du président Jacob Zuma. Le chef de l'État, empêtré dans des affaires de corruption, a jusqu'à présent obstinément refusé de rendre les rênes du pouvoir en dépit des injonctions de la direction de son parti. La décision des hauts responsables de surseoir leurs activités normales a été prise en raison d'autres engagements nécessitant leur présence, a expliqué l'ANC sans donner plus de détails. Le président Zuma et le nouveau patron de l'ANC, Cyril Ramaphosa, ont engagé cette semaine des discussions directes pour négocier la transition à la tête de l'État. L'issue de ces pourparlers est imminente, avait assuré l'ANC jeudi soir. En RDC, l'UDPS, parti historique de l'opposition congolaise, annonce la tenue de congrès fin février pour désigner le remplacement de Félix Tshisekedi à sa tête. Le point avec Eddy Sango.
Le congrès aura lieu le 26 et 27 février au siège du parti dans la commune de Lumete à Kinshasa. Il permettra de désigner les successeurs de Félix Tshisekedi, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles. Félix Tshisekedi, fils du défunt leader opposant, est le candidat le plus en vue. S'il est retenu comme président de l'UDPS, il sera candidat à la présidentielle pour le parti, a annoncé son porte-parole et secrétaire national, Abraham Luakabwanga. Les candidats de l'UDPS devra se concerter avec les rassemblements de l'opposition, plateforme dont il fait partie. Car d'autres candidatures de la même coalition ont déjà été annoncées, parmi lesquelles celle de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, et du député Martin Fayulu. En décembre, le Premier ministre Bruno Tshibala a été désigné président d'une autre branche de l'UDPS. La querelle sur l'héritage politique d'Étienne Tshisekedi continue à faire rage alors que le corps de l'opposant n'a toujours pas été ramené en RDC, faute d'accord entre les autorités, la famille et l'UDPS. Pour Bruno Tshibala, le rapatriement de la dépouille n'est plus qu'une question de temps.
En Guinée, de nouvelles violences sont signalées à Conakry, la capitale, avec plusieurs blessés. À quelques heures de la publication des résultats des élections locales du 4 février dernier, le ministre guinéen de la Justice et celui de la Sécurité appellent au calme et promettent de mettre fin aux troubles dans le pays. De son côté, la Commission électorale nationale indépendante ni n'avoir reçu qu'une partie des procès-verbaux dont elle va proclamer les résultats ce vendredi. De Conakry, notre correspondant Zakaria Kamara.
Il s'agit des résultats partiels issus de 170 procès-verbaux sur les 342 concernés. Cette annonce du président de la CENI est très attendue. Elle arrive dans un climat de violence politique sur fond de contestation des résultats. 12 personnes ont été blessées jeudi dans les heurts entre militants de bord politique opposés autour du domicile du chef de file de l'opposition guinéenne. Une violence de plus, mais une violence de trop, s'inquiètent plusieurs organisations de la société civile guinéenne. En visite à Conakry, le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a exhorté les leaders des partis politiques et leurs sympathisants à privilégier la manière pacifique et les voies légales pour résoudre tout différend lié au processus électoral. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et son homologue de la Justice ont averti contre de nouvelles violences. Le premier a promis de protéger les populations. Tout auteur de violence post-électorale sera traduit devant la loi, menace à son tour le garde des Sceaux. Conakry, Zakaria Kamara, VOA Afrique.
Au Togo, remise en liberté sous contrôle judiciaire jeudi de 10 étudiants interpellés mardi à Lomé quand ils se rendaient sur le campus de l'université de la capitale pour une assemblée générale. C'est ce qu'a appris l'AFP auprès des autorités universitaires. Parmi ces étudiants figure Folie Sachivi, le président de la Ligue togolaise des droits des étudiants. Il avait déjà été arrêté en juin 2017 et condamné à 12 mois de prison avec sursis à la suite de manifestations sur le campus de l'université de Lomé. Et puis au Nigeria, procès de deux membres du gouvernement devant une cour de justice pour fraude après la découverte à leur domicile de 86 voitures de luxe dont 23 véhicules blindés. L'un des deux prévenus est membre du comité présidentiel pour la gestion de la crise dans le nord-est du pays, région dévastée par l'insurrection djihadiste de Boko Haram.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Nigeria toujours, la fièvre de Lassa sévit dans le pays où elle a fait 31 morts depuis le mois dernier. Face à la menace, les pays voisins prennent des mesures pour éviter une épidémie à grande échelle. Joint par Anastasia Peteuil, Sylvain Blaise, spécialiste dans les infections virales émergentes à l'Institut de Paris, l'Institut Pasteur, fait le point.
En fait, la situation de la fièvre de Lassa en Afrique de l'Ouest est endémique, c'est-à-dire qu'on a en permanence des cas avec des épidémies régulièrement au Nigeria, au Sierra Leone, au Libéria, parfois en Guinée. Puis entre les deux, les pays comme le Ghana, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire ou le Mali, eh bien on observe des cas sporadiques et des mini-épidémies, enfin des petites épidémies comme par exemple le Bénin.
Alors quels sont les symptômes pour la fièvre de Lassa?
La maladie va débuter par un syndrome pseudo-grippal, c'est-à-dire des signes peu spécifiques avec des céphalées, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de la fièvre, une fatigue extrême qui rend compliqué le diagnostic. Ça ressemble beaucoup au paludisme, aux maladies beaucoup plus fréquemment rencontrées dans ces pays-là. Et ensuite, le tableau clinique va s'aggraver avec apparition de signes hémorragiques, des œdèmes, et le patient va décéder dans un contexte de défaillance multiviscérale.
Et quelle est la différence entre la fièvre Lassa et Ebola?
La différence tient surtout à la gravité de la maladie, c'est-à-dire que Lassa tue moins qu'Ebola, mais sinon c'est le même syndrome, c'est-à-dire la fièvre hémorragique virale, avec les mêmes symptômes qui sont observés, mais la mortalité de Lassa est plus faible, c'est-à-dire que Lassa tue entre 10 et 30% des patients, alors qu'Ebola, on a une mortalité qui peut aller jusqu'à 80-90%.
Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs comment on se protège du virus?
Le virus est hébergé dans la nature au sein d'un rongeur, et malheureusement, ce rongeur vit très proche des hommes, puisque c'est un rongeur qui vit dans les cases, et donc les contacts avec l'homme sont très fréquents, puisque ce rongeur va aller poser ses déjections très près des habitations, voire même sur la nourriture qui est stockée dans ces cases pour éviter la contamination, mais il faut tout simplement éviter les contacts avec ce rongeur.
Dans certains pays, la maladie est endémique, dans d'autres, sporadique. Pourquoi cette différence?
Ça tient en fait à la présence du réservoir à côté de l'homme dans les villages, au pourcentage d'infection de ce réservoir par le virus Lassa. C'est une question de réservoir et d'intensité d'infection du réservoir. Maintenant, dans le détail, pourquoi il n'y en a pas encore beaucoup dans les pays qui sont entre les pays endémiques, là, pour le coup, je n'ai pas la réponse.
Et donc, c'est pour ça que c'est difficile d'éradiquer cette maladie qui a été découverte maintenant, il y a 50 ans.
On peut évidemment pas éradiquer la maladie puisque le virus circulera toujours parmi les populations de rongeurs. La seule façon finalement d'éradiquer cette maladie, ce serait de vacciner la population qui vit à proximité de ces rongeurs et qui donc est à risque pour la fièvre de Lassa. C'est-à-dire qu'il faudrait vacciner les populations d'Afrique de l'Ouest contre ce virus.
Sylvain Blaise, spécialiste dans les infections virales émergentes à l'Institut Pasteur de Paris. En Égypte, l'armée égyptienne a lancé ce vendredi une opération antiterroriste dans plusieurs régions du pays, dont la péninsule du Sinaï, où des groupes djihadistes sont très actifs. Baptisée Sinaï 2018, cette offensive vise plusieurs régions du delta du Nil dans le nord et aussi le désert occidental dans l'ouest. L'armée et la police ont déclaré l'état d'alerte maximale dans ces secteurs. Actualité aux États-Unis maintenant, les deux chambres du Congrès américain ont finalement approuvé un accord budgétaire sur le financement de l'État fédéral. Ces efforts de dernière minute vont permettre de mettre fin au shutdown, la fermeture partielle de l'administration fédérale, aussitôt que le président Donald Trump pourra signer le document. On revient de loin, Anne Albertson.
Au terme d'une journée à rebondissement, les sénateurs ont dû convoquer une session de rattrapage après avoir passé leur limite de minuit, à partir de laquelle le gouvernement ne disposait plus des crédits pour fonctionner. L'administration Trump avait vécu sa première paralysie le 20 janvier, déjà faute d'accord sur le budget. Elle avait duré 3 jours. Le scrutin a été bloqué pendant plusieurs heures par Rand Paul, un républicain qui s'opposait notamment au relèvement du plafond de la dette américaine. La présidence du Sénat a dû suspendre la séance à minuit, heure locale, 5 heures, temps universel, pour en ouvrir une nouvelle une minute plus tard et convoquer un vote. Celui-ci s'est conclu par une large approbation, 71 voix contre 28.
La Chambre des représentants a donc ensuite adopté la loi budgétaire qui va mettre fin au shutdown fédéral, aussitôt que le président Donald Trump pourra signer la mesure. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.